Un excellent moyen de forcer quelqu'un légalement, éthiquement et malgré lui à faire quelque chose qu'initialement il est un petit peu réfractaire à faire, c'est d'utiliser des leviers psychologiques beaucoup plus profonds que ce qu'on t'a appris à faire jusque-là. Je m'explique. Si tu as suivi quelques livres, quelques formations sur le copywriting, on t'a souvent parlé du concept de base qui est d'arrêter de parler des caractéristiques et de parler des bénéfices. C'est un des premiers trucs qu'on apprend en vente, en closing, en persuasion, en copywriting, c'est qu'on ne va pas dire ce Mac, il est génial parce qu'il a un processeur i14 avec 36 Go et du RAM, etc. À part si tu parles à un geek, évidemment, tu vas plutôt dire ce Mac, il va te permettre d'être plus performant, plus productif, donc tu vas gagner plus d'argent, etc. Mais en fait, cette partie-là de la vente, elle représente que 20 à 25% de la force persuasive que tu peux mettre en place pour faire craquer la personne. Parce que ça, en fait, on reste encore sur le rationnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, être plus productif, gagner plus d'argent, oui, il y a un petit côté émotionnel, l'argent, etc. On appelle un petit peu aux émotions, très bien. Mais c'est que 20 à 25%, même pas le quart de ce que tu peux mettre sur la table pour faire craquer la personne. Si tu veux vraiment forcer, obliger la personne à te suivre dans une action à laquelle en ce moment il est réfractaire, il n'est pas enclin, faut aller plus loin, faut aller chercher des leviers psychologiques beaucoup plus profonds, qui sont un petit peu dark, qui sont un petit peu plus dangereux. Faut utiliser ce que je te dis avec précaution, avec modération et toujours dans un but d'améliorer la vie de la personne. Évidemment, sinon on entre dans de la manipulation et utiliser à mauvais escient, ça peut vraiment être dangereux et avoir des conséquences lourdes. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est à aller plus loin. Par exemple, un levier manipulatoire extrêmement puissant, c'est d'utiliser le groupe d'appartenance. C'est-à-dire que la personne en face de toi, elle a forcément un groupe d'appartenance auquel, enfin, duquel elle aimerait faire partie. Et toi, ton taf, c'est une technique de vente que je te donne extrêmement concrète à appliquer dès aujourd'hui, ton taf, c'est d'analyser l'humain que tu as en face de toi et de te poser la question de qui la personne que j'ai en face de moi cherche secrètement l'approbation. C'est-à-dire de qui elle cherche la validation. Et en fait, en faisant ce travail-là, en l'étudiant un petit peu, en l'analysant, tu vas comprendre qui est son groupe de référence, où en fait la personne, toutes ses actions, la quasi-totalité de celles-ci, de ses lectures, de ses discours, de ses visionnages, eh bien c'est lié, c'est dans le but de faire une ascension sociale jusqu'à ce groupe de référence. Et une fois que tu as fait ça, tu peux ajouter à ça un biais de cohérence où tu vas faire en sorte de pointer une incohérence dans le discours, dans la pensée et dans le comportement de cette personne pour la pousser à comprendre d'elle-même, parce que c'est ça la persuasion, c'est faire en sorte que la personne pense que l'idée vient de lui, et justement de lui faire comprendre que l'élément manquant pour que cette personne arrive, un, à être cohérente entre ses discours, ses pensées et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, l'élément manquant pour arriver justement à être cohérent et à appartenir à ce groupe de référence dont la personne cherche la validation, l'approbation, c'est précisément de faire l'action que tu le pousses à faire. Imaginons, exemple très concret, moi c'est une technique de vente que j'ai utilisée sur toi, donc la preuve que ça marche, parce que sinon tu ne serais pas ici, en te disant, attends, tu te prétends entrepreneur, tu prétends vouloir gagner 10K par mois, mais tu n'es même pas capable d'investir 500 balles, 500 balles pardon, en toi pour rejoindre une formation qui va t'apprendre à en faire 10, 100 fois plus. Sérieusement? C'est ça ton pseudo-mindset d'entrepreneur? Et tu peux rajouter à ça, selon la personne, parce qu'il y a des personnes qui peuvent complètement se braquer et ça produit l'effet inverse, tu rajoutes un petit peu de provoque et ça peut déclencher une réaction vraiment émotionnelle. Et là, on va vraiment chercher dans les méandres psychologiques de la personne et c'est extrêmement puissant. Évidemment, il faut le faire avec style, avec classe et avec déontologie, mais ça peut véritablement, ça, si tu l'appliques dans tes pages de vente, dans tes discours et même dans tes closings face-to-face ou au téléphone, ça peut véritablement te rapporter un paquet de pognon bien plus imposant que tu ne le crois. Donc, je te donne ça, t'en fais ce que tu veux, ne me remercie pas, c'est cadeau. Mais après tout, qui suis-je pour donner ce conseil-là et en quoi est-ce que je l'ai appliqué dans ma vie, à part dans la vente, puisque je t'en ai déjà donné un exemple, pour arriver à mes fins? Je vais te donner un exemple extrêmement concret, une anecdote que je n'ai jamais partagée en public et qui pourtant est extrêmement parlante et je trouve assez significative, assez symbolique de ce que je viens de te dire, puisque j'ai déjà utilisé cette technique de vente, celle que je viens de te donner, celle que je viens de t'expliquer dans le dernier message vocal, à des fins de séduction. Je m'explique. Il y a à peu près 3 ans, j'ai fait mon premier voyage après avoir quitté mes études. Donc, mon premier voyage en tant qu'entrepreneur, libre financièrement avec mon business, etc. Et c'est dans un moment comme ça, dans cette période, où j'ai commencé aussi à m'intéresser plus au développement personnel, surtout le fait de se surpasser, le fait de faire des choses qui nous étaient difficiles, le fait d'arriver à aller dans l'inconnu et à se mettre un petit peu en danger en termes de sortie de zone de confort. Et donc, je suis allé en Espagne avec des amis à moi. Et c'est dans cette période où je regardais beaucoup de vidéos sur la séduction. Et apparemment, c'est ce qu'on me vendait dans les vidéos, quelque chose qui te permettait véritablement de devenir un autre homme et une expérience apparemment qui te changeait en tant qu'homme de valeur, c'était d'aller faire de la drague de rue. Et moi, comme je te l'ai dit plein de fois, j'étais extrêmement introverti, je l'étais encore plus à l'époque. Donc pour moi, c'était extrêmement difficile, si ce n'est inconcevable, de le faire, c'est-à-dire de sortir dehors et d'aller aborder des femmes au hasard qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève et que j'allais devoir, entre guillemets, pitcher pour un date, pour une relation, pour un numéro, etc. Et je me suis dit, écoute, je me suis auto-manipulé en fait, je me suis dit, écoute, si tu te prétends entrepreneur, si tu prétends que les gens doivent faire des choses qui leur sont difficiles et qui doivent sortir de leur zone de confort, eh bien fais-le. Tu vois, j'avais déjà ce mindset à l'époque. Et ce que j'ai fait, c'est qu'un soir, alors que mes amis avaient un petit peu la flemme de sortir, je suis allé dehors, tout seul, sur la plage, et j'ai commencé à aborder. En plus, dans une langue, puisque j'étais en Espagne, qui n'était pas la mienne. Donc, il y avait une difficulté en plus. Mais mine de rien, c'était assez paradoxal, puisqu'il était plus facile de draguer dans une langue étrangère, puisqu'en fait, la langue est d'autant plus simple. Puisque tu vas à l'essentiel, tu n'as pas un champ lexical énorme, ni un vocabulaire extrêmement riche, donc tu te dois d'aller à l'essentiel. Et c'est plus ton comportement et ton physique qui va jouer qu'autre chose. Mais juste le courage, l'inventivité, la créativité de l'approche peuvent suffire. Je vais donc dans les rues de la ville en question où j'étais et je commence à regarder un petit peu autour de moi. Et forcément, moi je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est très difficile. Il y a beaucoup de douleur entre guillemets à le faire. Je me dis putain, mais imagine, je me prends un râteau, imagine, c'est la honte, c'est l'humiliation. Alors ça va puisque j'étais dans un autre pays, donc au pire, personne ne le saurait, j'étais tout seul, mais quand même, ça demandait beaucoup de courage, surtout pour un introverti comme moi, d'y aller. Et à un moment, donc je suis dans les rues. Et j'ai un eye contact avec une très jolie demoiselle qui faisait un petit peu typée de l'Est, tu vois, grande, blonde, les yeux bleus, etc. J'ai un eye contact. Bon, très bien. Moi, je suis partisan de la coïncidence. C'est Stéphane Edouard qui disait que une fois, c'est une occurrence, deux fois, c'est une coïncidence, et trois fois, c'est une récurrence. Donc, un eye contact, ça peut être un regard croisé qui ne veut rien dire lorsqu'elle avait balayé la foule de son regard. Sauf que 10 secondes plus tard, je la regarde à nouveau, il y a un deuxième eye contact. Là, je me dis, on est dans la coïncidence plus plus. Et après, on s'est croisés, en fait, et je me suis carrément retourné pour la voir, et elle a fait de même. Et là, donc, forcément, je me suis dit, bon, c'est une récurrence, prends tes couilles, vas-y, dépasse-toi, et puis sois cohérent avec ce que tu penses. J'y suis allé, et à peine ai-je le temps de m'approcher d'elle qu'un autre mec l'aborde. Donc, forcément, là, moi, ça me rajoute de la difficulté, et je m'arrête net, et je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est trop tard, c'est mort. Et là, d'un coup, j'ai une crise d'ego, c'est-à-dire que je me dis, non, tu vas le faire, tu vas jusqu'au bout, quitte à te prendre un râteau, quitte à te prendre un rejet, c'est pas grave, tu vas quand même. Et donc, je m'approche de la meilleure amie de cette demoiselle, et du coup, je fais une petite prise d'information. Je lui dis, oui, excuse-moi de te déranger, je lui dis évidemment en espagnol, ta copine, elle a l'air un peu de se faire chier là, puisque je voyais que la discussion avait pas l'air passionnante, est-ce que tu veux que j'aille la secourir? Et là, elle rigole, et elle me dit, oui, vas-y. Et du coup, je m'approche de la demoiselle, je dis, c'est bon, t'as fini, on peut y aller. Alors qu'il y avait encore le mec à côté. Et elle rentre dans mon jeu, elle me dit, oui, j'arrive. Donc voilà, excellent, l'approche se passe, je retourne vers la meilleure amie, j'échange 2, 3 mots, je commence à créer du lien aussi, je cherche la validation de la meilleure amie, puisque ça marche beaucoup, surtout sur les femmes. Fémininement, c'est extrêmement important que les copines valident le mec, sinon il y a toujours un petit blocage et ça complique les choses. Du coup, je crée du lien avec la meilleure amie pour que je sois validé et que, entre guillemets, ça ne soit pas une objection future dans mon closing. La fille en question, celle que j'étais partie aborder, semble écourter la conversation avec le mec en question et revient vers moi. On fait connaissance, on échange nos prénoms, on discute de banalités. Je lui dis, voilà, Il y a eu un eye contact, je l'ai vu, tu l'as vu, donc je me suis permis de venir te voir, etc. Et j'ai vu que ce garçon t'importunait. Donc déjà, en fait, je me mets en position d'allié avec un ennemi commun, c'est-à-dire le lourdeau de service. Et par opposition, si je dénonce quelque chose, c'est que je ne le suis pas. C'est une technique de vente vieille comme le monde. Quand tu dis, ah, les scammers, les charlatans, etc., ça veut dire que tu dénonces quelque chose que tu n'es pas, et donc que toi, tu es digne de confiance. Bref, technique de vente extrêmement basique. Et donc, la conversation continue. Et il y a un feeling énorme, c'est-à-dire que c'est génial, même la meilleure amie du coup, elle a apprécié le fait que je vienne la voir, la démarche, etc. Et donc on commence à se balader littéralement à trois, c'est-à-dire que elles me disent, bah, viens avec nous, machin, on va boire un verre, etc. Donc je pars en triple date avec la meilleure amie, un petit peu difficile de me sortir de la situation, mais au moins j'ai la validation, tout va bien. Et la discussion avance, et peut-être 10-15 minutes après, vient la question fatidique, elle me demande quel âge j'ai. Et du coup, moi, à l'époque, j'ai 18 piges, donc forcément, c'est pas extrêmement à mon avantage, puisque j'ai compris, j'ai deviné qu'elle était légèrement plus vieille. Et du coup, je me grandis, je lui dis 22. Et là, elle me dit, ah, mais t'as un bébé. Et là, je me dis, merde. Et je lui dis, mais pourquoi toi, t'as quel âge? Elle me dit, j'ai 28. Donc là, je me dis, bon, bah, voilà, j'ai affaire à une femme qui a 10 ans de plus que moi, qui ne parle pas ma langue, que j'ai abordée alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est un challenge. Mais très bien. Allons-y, je n'ai pas peur des défis. En plus, ça se passe plutôt bien, donc on y va. Et là, je sens que depuis le moment où elle a découvert mon âge, je sens que le rapport de force est inversé. Et c'est très important de comprendre qu'en vente, que ce soit de la vente commerciale ou de la vente sentimentale ou de la vente entre guillemets sexuelle, j'utilise ce terme quand tu veux entre guillemets coucher avec une demoiselle, c'est de la vente. En fait, tu te vends, tu vends une partie de jambes en l'air avec toi, pour être un petit peu simpliste et droit au but. Et du coup, je sens que depuis le moment où elle a appris mon âge et le fait qu'elle avait officieusement 8 et officiellement, enfin non, c'est l'inverse, officiellement elle avait 8 ans de plus que moi, officieusement elle en avait 10, moi je le savais, le rapport de force était inversé. Et depuis le ah, mais t'es un bébé, je comprenais clairement que mes chances d'arriver à conclure avaient été drastiquement amenuies et j'avais bien compris que ça allait être un blocage dans le futur. Et ce que j'ai fait, c'est que durant la discussion, moi je lisais beaucoup de bouquins de copywriting, de vente, etc. Dans la discussion, je parlais peu et j'essayais de deviner, enfin de comprendre, de trouver le truc qui me permettrait de rétablir le rapport de force ou d'arriver à faire en sorte que cette objection de l'âge n'en soit plus une. Et à un moment, je trouve, puisque je me rappelle dans la discussion qu'elle m'a demandé les signes, enfin mon signe astrologique et le sien. Tester les comptabilités. Donc déjà, je me dis, bon, bah, c'est une sorcière, très bien. Vas-y, soit. Et je me souviens qu'elle avait ce petit côté spirituel en début de conversation, en mode, oui, alors les gémeaux, c'est comme ci, c'est comme ça, les cancers, etc. Donc je me dis, c'est une femme spirituelle. Et là, je tente un coup de bluff. Je tente un coup de bluff et je lui dis, mais toi, de toute façon, j'ai vu que tu étais un petit peu spirituel dans l'esprit. Elle me dit, eh ben oui, clairement, moi, les signes astrologiques, c'est important. Moi, je suis libre, je pense qu'on se construit de par sa pensée, qu'il faut la développer, qu'il ne faut pas être fermé d'esprit, etc. Je dis, ok, très bien. Donc, évidemment, toute la conversation était à moitié en espagnol, et quand je galérais, je switchais en anglais. Mais vu qu'elle parle anglais, ce n'était pas un problème. Donc, vraiment, c'était un 50-50, quoi. Donc, je dis, ok, très bien. Donc, toi, tu te considères comme une femme libre, c'est-à-dire que les pensées que tu as, c'est les tiennes, et. C'est pas celle d'autrui, du patriarcat. Voilà, je rentre dans son jeu à fond. Elle me fait, ah bah oui, évidemment. Et là, je lui dis, mais donc, toi, pour toi, les stéréotypes de la société, c'est pas un truc que tu valides, c'est pas un truc que tu aimes, tu trouves pas ça bien. Elle me dit, ah bah non, moi, les stéréotypes, j'aime pas ça, et puis ça a aucun effet sur moi. Ça me dérange pas. Enfin, voilà, je me plie pas à ça, et voilà. Et je lui dis, donc, le stéréotype de la différence d'âge, comme quoi. L'homme doit être plus âgé que la femme, ça ne te dérange pas. C'est-à-dire que ce stéréotype-là, ce n'est qu'un stéréotype. Un homme peut très bien coucher avec une femme plus âgée et inversement. Nous sommes d'accord. Et là, je vois qu'elle bug, puisque j'ai utilisé le biais de cohérence. Elle me dit, ah oui, complètement, oui. Et je vois en fait dans ses yeux que j'ai touché juste et que j'ai en fait remis son paradigme, enfin je l'ai complètement changé, et que maintenant, à partir de ça, puisqu'elle a plus ce blocage dans la tête et que je l'ai fait sauter, eh bien, c'est bon. Et crois-le ou non, mais du coup, on a passé une soirée durant laquelle il ne s'est rien passé. Mais par contre, le lendemain, on s'est revu en date, en tête à tête, sans sa meilleure amie. Et il s'est passé ce qui devait arriver. Je te laisse deviner, évidemment. Mais c'est pour te dire la puissance de la persuasion. quand tu connais comment le cerveau fonctionne, que ce soit celui d'un homme, d'une femme, d'un client, d'une demoiselle, peu importe, tu peux vraiment parvenir à tes fins très facilement.